Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde, c'est Juliana et c'est la première émission Le nombril de l'année. Et je suis très contente d'être en compagnie de Morvan Dieu. De commencer l'année comme ça en parlant des livres, mais aussi en rentrant dans le vif du sujet, dans la connaissance de la bande dessinée. Bonjour Morvan Dieu.
Bonjour.
C'est-à-dire que tu ne te contentes pas d'être auteur, d'être dessinateur, tu vas faire aussi de la recherche et tu nous donnes à voir et à lire des choses très intéressantes, notamment au travers de cet ouvrage qui est paru aux éditions du Commun au mois de septembre, et s'appelle Contrabande.
Voilà, tout à fait. C'est le résultat de longues années de recherche, et d'écriture et de réécriture. Et c'est un travail autour de la bande dessinée alternative francophone, qui est un peu le milieu dans lequel j'évolue moi-même depuis une trentaine d'années.
Trop bien, francophone, mais disons vrai, avec un regard quand même extérieur.
Alors, j'ai un pied dedans quand même, ouais. Donc c'est à la fois, du point de vue de la recherche universitaire, c'est à la fois un atout et une complication,
oui.
Puisqu'il faut trouver effectivement la bonne distance pour parler d'un sujet qu'on étudie.
Mais la géographie est un sujet à ce moment-là ?
La géographie est aussi un sujet, oui, surtout pour l'édition qui est un secteur, comme beaucoup de domaines en France, très centralisé habituellement dans la région parisienne. Et là, l'édition alternative, il y a beaucoup de choses à Paris, mais il y a aussi beaucoup de choses ailleurs.
Tu as toujours dessiné depuis petit, avec ton grand frère, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Ouais. Mon grand frère Tanitoc, grâce à qui j'ai continué à dessiner à l'âge où les personnes équilibrées s'arrêtent.
Mais on a quand même le sentiment que le dessin t'a façonné et qu'aujourd'hui, c'est un peu ton équilibre.
Oui, oui, tout à fait. Ouais.
Ton équilibre de vie.
Oui, complètement. Ouais, ouais. C'est une manière d'appréhender le monde de façon générale, même si ça peut paraître un peu pompeux de le dire comme ça. Et puis, un plaisir.
Alors, BD, livres, dessins de presse, tu as démarré quand même avec les fanzines à l'époque, des années 90.
Début des années 90, oui, oui, oui.
Metal Hurlant, c'est ça ?
Alors, Metal Hurlant, ça, j'en étais plutôt le lecteur.
Lecteur, oui, ouais, oui, d'accord.
Mais fanzine, et puis il y a toute une scène, comme je suis originaire de Rennes et que j'ai toujours habité ici, presque, il y a toute une scène ici qui s'est développée qui était très, très vivante et très stimulante. Oui, bah, Metal Hurlant, c'est une expérience qui précède un peu ma recherche, c'est-à-dire c'est la bande dessinée alternative des années 70-80. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand je dis bande dessinée alternative, c'est-à-dire en l'occurrence une revue et puis une maison d'édition créée par des artistes, avec un point de vue particulier. Et puis Metal Hurlant, c'était à l'image de son époque des années 70, avec une transgression sur certains sujets, le rapport au rock'n'roll, à la science-fiction et tout ça. Et donc les gens de ma génération qui sont plus jeunes ont pour certains été lecteurs de Metal Hurlant et ça leur a ouvert des portes en termes d'imaginaire et de possibilités. Quoi.
Qu'est-ce que c'est que cette contrebande ? Qu'est-ce que c'est ces personnes qui font de la BD sur le prisme d'une contrebande ?
Et ben justement, tous ces gens viennent ou sont passés à un moment ou à un autre par l'univers du fanzine, de l'auto-édition, de la pratique amateur, en lien justement avec cette culture alternative au sens plus large. Hein. J'évoquais le rock'n'roll, le punk et tout ça. C'est vraiment des mouvements dans lesquels sont nés aussi l'idée de l'auto-édition du fanzine. Mais c'est des gens qui, justement au début des années 90, décident de sortir un peu du cercle confidentiel et de l'entre-soi où peut exister le fanzine, l'aspect plus confidentiel. Et ils se disent, bah, nous on veut faire de la bande dessinée, mais on veut que ce soit en librairie et que ce soit disponible à côté des autres ouvrages de plus mainstream de la bande dessinée. Et ça intervient en fait. Donc la question que j'avais au départ, c'était comment ça se fait que des structures qui ont été créées comme ça dans les années 90 pour les plus connus comme l'association qui est l'éditeur de Persepolis par exemple, comment ça se fait, comment ça se passe leur naissance, comment on explique cette initiative, et est-ce qu'il n'y a pas un aspect générationnel là-dedans, d'un contexte historique, socio-économique, etc. Et comment ça se fait qu'ils sont encore là 30 ans après, alors que c'est des artistes qui n'ont pas du tout un profil d'entrepreneur au départ, et qu'eux-mêmes sont surpris en fait, par la pérennité des structures qu'ils ont créées. Et non seulement ils sont encore là, mais en plus ils ont complètement bouleversé l'esthétique du secteur. Aujourd'hui, on parle, les amateurs de bande dessinée, les amatrices connaissent bien ce qu'on appelle, un mot un peu valise, on parle de bande dessinée du réel, par exemple. Qui est une expression à mon avis un peu discutable, mais en tout cas qui recoupe plein de choses, la bande dessinée de reportage, autobiographie, tout ça c'est des choses pour les lectrices et les lecteurs de bande dessinée qui paraissent assez banales, alors qu'en fait ça a été vraiment développé par notamment l'édition alternative. Donc c'est vraiment un secteur qui a énormément évolué, notamment sous le...
Qui s'est organisé.
Et donc voilà, il y a un espèce de millefeuille de questions qui vont des questions esthétiques aux questions plus structurelles. Et avec c'est une thèse en art que j'ai soutenue, mais qui est quand même assez teintée de sociologie, effectivement, pour essayer de comprendre qui sont ces gens, comment ils réfléchissent, quelles sont leurs représentations.
Oui, bien sûr. Et là, on va trouver effectivement un historique, notamment des maisons d'édition, avec des portraits, etc. Mais devant toi, tu as carrément la cartographie ouverte. C'est pour savoir un peu où se situent ces maisons d'édition. C'est très riche.
Oui, il y a beaucoup d'initiatives. Moi, mon idée, c'était de faire un inventaire, d'une part, mais de ne pas m'en tenir là, parce que ça aurait été un peu sec et pas très intéressant. Et c'était plutôt d'essayer de voir quels étaient les liens qu'il pouvait y avoir entre ces structures, et ou les différences. Parce que c'est des structures qui ont à la fois des identités esthétiques très singulières. Donc, il y a vraiment c'est foisonnant, il y a des choses très différentes. Une grande diversité de propositions. Et en même temps, comme je le disais, il y a un aspect quand même culturel, générationnel qui les lie, qui est aussi circonstanciel. C'est-à-dire que le début des années 90, c'est aussi la chute, une grande crise dans la presse bande dessinée. Tous les magazines spécialisés qui existent, dont Metal Hurlant par exemple, dont on parlait tout à l'heure, se cassent la figure en fait à cette époque-là. Et ces journaux étaient en fait très importants dans le paysage, puisqu'ils permettaient à des jeunes auteurs de faire leurs premières armes, à la fois d'un point de vue esthétique, d'essayer des choses, mais aussi professionnels, d'être payés pour faire le travail qu'ils faisaient, sur des formats d'histoires courtes. Et quand toutes ces revues disparaissent, donc Metal Hurlant, À Suivre, Pilote, toutes ces revues vraiment s'arrêtent à ce moment-là. Et il y a un espace qui disparaît, un espace de création. Et c'est là que justement ces artistes qui sont nés dans les années 60 ou 70, qui arrivent, qui ont 20, 25 ans, ils disent nous, il n'y a plus d'espace, l'espace, on va le créer, quoi. On va le créer nous-mêmes.
Ouais. Parce qu'il fallait donc faire cette rupture avec une certaine idée de l'édition qui ne nous convenait pas, en fait, à ces personnes que tu recenses, d'autres, n'est-ce pas? Parce que c'est très difficile d'abandonner l'amour de l'art pour une réalité économique.
Alors voilà, c'est une des tensions évidemment que vont rencontrer rapidement ces artistes dont je parlais. Comment est-ce qu'on continue à créer librement et sur des thèmes, dans des pistes inexplorées, en se confrontant à la réalité de la librairie, enfin une des réalités en tout cas, qui est celle du commerce. Comment on fait avec ça, sachant que là, sur les 30 ans que moi j'étudie dans ce livre, le paysage a beaucoup évolué, et il a évolué notamment autour de la surproduction, parce que dans les années 90, il y avait en France autour de 300 nouveautés par an à peu près. Aujourd'hui, on a plus de 5000. Et donc mécaniquement, les librairies n'ont pas augmenté dans la même proportion, malheureusement. Mécaniquement, un livre chasse l'autre, aujourd'hui beaucoup plus qu'à l'époque. Comment survivre dans cette jungle? C'est une des questions et pas la plus simple à résoudre.
Et le lecteur là-dedans?
Et le lecteur là-dedans, ouais. Alors c'est aussi ce que j'essaie aussi d'aborder dans le livre, effectivement, ce que je décris comme étant un phénomène de sédimentation, c'est-à-dire comment se fait-il par exemple que Persepolis, que j'évoquais tout à l'heure, qui sort en l'an 2000, deviendra un succès international. Ça tombe pas non plus du ciel. Enfin, le recul qu'on peut avoir a posteriori est instructif, parce que il y a eu des précédents à Persepolis, pas en termes de vente, mais en termes de contenu, en termes d'esthétique. Et tous les best-sellers qui ont pu avoir lieu, alors toute proportion gardée, hein, parce que les best-sellers dans l'édition alternative Alors, Persepolis fait un petit peu exception parce que c'est plusieurs millions d'exemplaires vendus dans le monde, mais des best-sellers, un autre best-seller peut-être que les auditrices et les auditeurs connaissent, c'est Zai 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 de Fab Caro, dans un autre mode plus humoristique. Mmh. Ils sont préparés en fait par d'autres livres qui sont avant, c'est un espèce de phénomène concentrique, c'est-à-dire que des gens défrichent, des artistes défrichent, ils vont ouvrir des portes à d'autres qui les lisent. Et qui vont se dire ah, il a osé faire ça, tiens, c'est possible, quoi. On peut raconter ça en bande dessinée. C'est vraiment le phénomène assez classique d'influence dans l'histoire de l'art. Dans les années 80, on est vraiment à l'époque, c'est l'époque de Bernard Tapie, quoi. Il faut se rappeler quand même de ça. C'est la télévision, le divertissement dans la pire acception du terme. Et en bande dessinée, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est vraiment le divertissement à la chaîne, quoi. Ouais. Avec aussi tous les clichés de représentation. Quand on regarde sur 30 ans, c'est intéressant de voir, puisque évidemment la production artistique est aussi le miroir de la société dans laquelle on vit. Sur le rapport femme-homme, par exemple, bon, les représentations de la bande dessinée, on en trouve toujours, mais à l'époque, c'est vraiment la caricature des bandes dessinées de fantasy avec des personnages féminins avec des gros seins et avec des épées. Et, enfin voilà, tous les clichés horribles qu'on met sur la couverture. Et la contrebande va arriver en disant mais nous, on en a ras-le-bol de ça.
On n'est pas là.
La contrebande est plutôt dans une logique de donner la priorité à la création. Au défrichage, à la découverte, qui sont des termes qui sont souvent repris de manière marketing aussi par l'industrie, mais voilà, c'est comme dans la musique, on sait bien comment ça marche, c'est-à-dire que la logique quand même fondamentalement de l'industrie c'est pas l'amour de l'art qui les mène, hein. Et donc en bande dessinée c'est la même chose. Un autre de mes interlocuteurs, parce que j'ai fait beaucoup d'entretiens pour écrire ce livre, un autre de mes interlocuteurs qui me dit on aurait beaucoup moins de problèmes pour vendre des livres s'ils étaient vendus dans les pharmacies. C'est-à-dire, effectivement, s'ils n'étaient pas vendus dans un espace qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, a de moins en moins de temps et de place pour montrer toute la production. Là, on est quand même dans une logique entre 1990 et aujourd'hui de concentration aussi industrielle, où les éditeurs sont rachetés, et donc une logique aussi de best-sellerisation maximum, quoi, sur l'ensemble du secteur de l'édition. Et donc forcément, il faut pouvoir exister là-dedans et proposer d'autres voies, quoi, d'autres éclairages.
Bah, il va falloir quand même faire une petite pause musicale, mon bon Dieu. Quelle joie dans le dessin aussi.
Ah bah oui, complètement. Moi, j'ai une pratique, un rapport très dans le plaisir à ma pratique.
Ouais.
Ce que j'ai un peu retrouvé quand on fait de la bande dessinée en fait, ou du dessin de presse, que c'est deux pratiques ouais. que j'ai, le dessin est toujours au service soit d'une histoire, soit d'un message ou d'un gag, enfin, ou d'un commentaire politique par exemple, et donc bah, moi je trouve ça passionnant, mais j'ai redécouvert à la faveur du confinement, étant comme nous tous enfermés et devant écrire un petit papier ridicule pour pouvoir sortir, je me suis remis à refaire beaucoup de dessins d'observation à cette période-là, autour de chez moi, dans l'heure où on avait le droit de sortir là, de notre niche. Et donc j'ai commencé à dessiner pas mal d'arbres dans mon quartier. Et en fait, rapidement, étant par ailleurs...
C'était très contemplatif et très poétique.
Ben, c'était vraiment dans l'idée...
Très beau.
Je te remercie. C'était vraiment, par rapport à cette notion de plaisir, l'idée de se faire du bien dans une période hyper anxiogène. Mmh. Et donc, d'avoir une pratique un peu décomplexée, c'est-à-dire que c'est une partie de ces images que je postais sur mon compte Instagram était vraiment réalisée pour le plaisir, un peu comme un peintre du dimanche presque. Mmh. C'est-à-dire en me posant pas forcément la question de... Est-ce que je suis en train de faire un chef-d'œuvre qui va révolutionner l'histoire de l'art ? Mais plutôt, je me fais du bien. C'est le truc, la condition nécessaire à cette production. Et du coup, surtout avec un dessin où il n'y a pas d'enjeu d'être au service d'un récit ou de délivrer un message particulier. Juste, c'est une pratique.
Mais c'est ce que tu es en train de nous raconter, là, ce plaisir, c'est quelque chose, c'est un luxe en fait. D'une certaine manière.
D'une certaine façon, oui, tout à fait.
C'est une façon de se faire de bien, c'est thérapeutique, c'est do it yourself, et puis c'est sans contrainte, quoi. Enfin,
en tout cas, c'est moi le voilà.
La seule contrainte, c'est de trouver l'espace pour le faire.
Voilà, l'espace, le temps, et puis et d'avoir, oui, c'est ça, d'être suffisamment libéré dans sa tête pour faire ça à ce moment-là. Il y a plein d'autres gens qui ont plein d'autres qui font de la gym ou de la cuisine. Moi, je fais du dessin, quoi.
Oui. La cuisine, ça me va bien. Je dessine très, très mal. J'aurais bien aimé savoir faire ça parce que je suis fascinée, mais non. Et justement, alors, thérapie pour insomnie, ça donne un livre absolument magnifique que je suis en train de découvrir, dans lequel on te voit dans toutes les facettes, toi, ton visage surtout, mais aussi d'autres parties de ton corps. Ça s'appelle Vigile. Et
c'est chez L'Endroit Édition.
L'Endroit, ouais. Donc ouais. Voilà, juste à côté, sur la dalle.
Ben, j'ai eu plaisir, en fait, que ce soit Contrebande ou Vigile, à travailler aussi avec des éditeurs de Rennes.
Ouais.
C'était aussi, c'est un peu L'Endroit, on se connaît depuis très longtemps, mais c'était aussi un plaisir, après le confinement, et on a eu tous ces discours sur... ça y est, le monde a changé, on a bien pris en compte cette notion de mondialisation qui a des aspects super et qu'on a d'autres qui le sont beaucoup moins. Retravailler en direct avec les gens, des éditeurs à qui il suffit que je prenne mon vélo pour aller les rencontrer. Mmh. Ça faisait partie de ce choix-là aussi. Mais en l'occurrence, pour L'Endroit, ça s'est passé un peu autrement en réalité, puisque ces autoportraits qui composent ce livre, je les postais, donc c'est des autoportraits effectivement que je fais la nuit, que je faisais la nuit. Et que j'ai posté sur Instagram, et en fait c'est Mathieu Renard, le directeur de L'Endroit, qui m'a contacté en me disant tiens, mais on ferait pas un livre avec ça?
Il y a un cubisme là, non?
et moi j'avais pas du tout pensé à ça, comme je l'expliquais tout à l'heure, je faisais ces dessins vraiment sans arrière-pensée, en fait, pour me faire du bien.
Ouais.
Et je me suis dit ah tiens, faire un livre, c'est marrant que ça l'intéresse pour faire un livre. C'est la première fois en fait que je fais un livre sans l'avoir prémédité. Et du coup, mettant les pages bout à bout, en faisant un premier document pour voir à quoi ça pouvait ressembler, je me suis dit, en fait, peut-être effectivement, ça lui donne une autre dimension à ce travail qui m'échappe un peu, parce que c'est assez particulier de faire un livre où il n'y a que sa tête dedans.
Il y a des légumes aussi.
Il y a aussi quelques légumes,
ouais,
c'est vrai.
Il y a quelques légumes. À nous d'essayer de comprendre le rapport ou pas, d'ailleurs. Il y a de la joie.
En tout cas, c'est du plaisir. En tout cas, moi, dans ma pratique, je ne sais pas si ça se ressent pour les gens qui regardent, j'espère que oui. C'est du plaisir de dessin, de découverte. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de techniques différentes.
Des techniques, des couleurs.
De la couleur aussi, voilà. Mmh. Et puis d'une nuit sur l'autre, je me disais, tiens, la nuit prochaine, faire ce dessin-là, ça m'a donné envie d'explorer ça ou ça.
Il y a des dessins, se demandent. Donc
c'est mes narines.
Ouais, c'est tes narines. Merde. Donc, on pourrait même le tourner, on découvrirait autre chose, une espèce d'ovni, tu vois. Il y a de noir et blanc aussi. Alors, pour parler de couleurs, parce qu'on t'a vu, on t'a reçu avec le livre d'Algérie, c'était jeune surtout. Le taureau par les cornes, c'est très rouge. Et là, comme par hasard, les deux livres qui sortent en 2024 sont bleus. Est-ce qu'il y a une raison d'avoir choisi le bleu sur Contrebande et Vigile ?
Ben, je me suis aperçu de ça après avoir choisi le bleu.
Ah, d'accord.
Que ben, ça y est, je faisais les trois couleurs primaires. C'est du hasard. Le fait qu'il y ait ces trois couleurs, c'est certainement pas du hasard, mais c'est pas calculé, disons.
Très bien. Ton pull est bleu aussi. Hein.
Et mon pull est bleu, oui, c'est vrai. Non, mais ça fait partie des couleurs que j'aime bien. Et dans les deux cas, comme c'est moi j'ai travaillé avec des graphistes pour faire la couverture, mais c'est moi qui ai fait l'image de couverture. Mm-hmm. Sur Vigile, c'est un des autoportraits. Et sur Contrebande, c'est un dessin que j'ai fait avec de la typo. Et donc voilà, c'est moi aussi qui ai proposé. Puis en discutant avec les deux éditeurs, on s'est mis d'accord sur cette couleur-là. Ça nous semblait pas mal.
Et sur la distribution, notamment sur celui-ci, à l'endroit, on va le trouver à l'endroit, on va le trouver dans les libraires aussi.
Alors, il est disponible à l'endroit, mais il est disponible dans toutes les bonnes librairies de France. Il est distribué par... évidemment, le nom va m'échapper.
Vive les indépendants qui savent s'organiser.
Oui, tout à fait. C'est pas les belles lettres, mais bon, bref, oui. On peut le trouver, le commander dans toutes les bonnes librairies, sachant qu'on a fait un petit tirage, donc il n'y en a pas beaucoup.
C'est très joli. Et l'aventure, elle continue, mais là, pour le coup, tu vas t'expatrier un tout petit peu de l'Yvelines pour aller vers Brest. Qu'est-ce qui se passe là-bas en ce moment ?
Ouais, j'ai le grand plaisir et une certaine fierté, je dois dire, de participer à une aventure qui se lance à Brest, qui est l'initiative de Alain Hellou. Alain Hellou, que certaines Rennaises et certains Rennais connaissent, puisqu'il a été longtemps le directeur des ateliers du vent ici à Rennes. Et après un certain nombre d'aventures professionnelles, notamment du côté de la Russie, il est revenu avec évidemment les événements de la guerre qu'on connaît. Et il est à Brest et il a décidé de lancer une galerie d'art qui présente des arts visuels, à la fois du dessin, de la peinture, il y a aussi du volume, avec un certain nombre d'artistes qu'il connaît très bien, je crois qu'on est autour d'une douzaine. Et c'est que des gens qu'il connaît bien depuis très longtemps, dont il suit le travail, et donc j'ai le plaisir de faire partie de cette bande. Et donc il y aura une inauguration, donc il ouvre une galerie Place Wilson à Brest, donc en plein centre de Brest, et il y aura une inauguration le 24 et 25 janvier prochain.
Voilà. Donc il y a temps, on peut y aller, c'est chouette. On arrive comme ça et on va découvrir les œuvres. Peut-être même que c'est un prétexte pour éventuellement craquer et avoir une œuvre.
Oui, tout à fait. Ouais. Et donc moi, il m'a proposé de présenter un certain nombre de dessins que j'ai faits et de la couleur, puisque dans la suite de toutes ces aventures dessinées, là, je suis revenu à faire de la gouache et du paysage notamment, ce qui est... Là aussi, pas du tout calculé au départ, mais c'est une pratique dans laquelle je trouve un immense plaisir. Et j'ai des retours très chouettes sur ce travail. Donc du coup, il y aura une partie de ces gouaches qui seront présentées là-bas. Ouais.
Parce que comme ça, d'un point de vue très personnel, quand tu fais un travail plus intime comme celui-ci, ton inspiration, elle vient comment ? Enfin, je vais dire, voilà, tu as une intuition, tu la suis tout simplement.
Alors, pour ce qui concerne Vigile, c'était plutôt l'idée de comme je travaille la nuit, en l'occurrence sur ces projets-là, c'était plutôt le fait d'être tranquille la nuit, parce qu'on n'est pas interrompu par les emails ou je sais pas quoi, ou les coups de fil. Le fait de faire des autoportraits, c'était aussi lié au fait que j'étais un peu mon modèle disponible et le plus docile. Et puis, en ce qui concerne les gouaches que je vais présenter à Brest, c'est beaucoup d'images que j'ai faites à partir de promenades que je fais dans le coin, dans la région. Et donc, avec ce même plaisir de me promener, de découvrir des paysages qui me plaisent bien dans notre...
Donc, ils peuvent continuer sur Brest éventuellement.
Exactement, parce que je vais souvent me promener aussi du côté du Finistère.
Ah ouais, tu m'étonnes. C'est trop beau, le Finistère, j'adore. Une dernière question avant de nous quitter, puisque le temps, malheureusement, passe trop vite quand on est en bonne compagnie. on vient là de fêter les 10 ans de Charlie Hebdo. Tu parlais de dessin de presse tout à l'heure. Tu continues de le faire. Est-ce que tu as un sentiment particulier sur ces cérémonies de 10 ans? Est-ce que tu as évoqué des souvenirs? Comment tu as vécu ça, toi, personnellement?
Oui, je pense comme tous les dessinatrices et dessinateurs, c'est un peu un point de bascule, cette histoire. Je pense que... comment dire? J'en parle aussi dans mon livre. Je pense que c'est... en ce qui me concerne, à titre personnel, c'est vraiment la fin de l'insouciance, quoi. Avec cette prise de conscience ultra brutale et violente. Et puis voilà, après, c'est aussi des réalités concrètes pour ceux qui sont toujours vivants. Je pense à Luz, que j'ai pas mal côtoyé un certain temps, que je n'ai pas revu depuis cette période, puisqu'il est toujours sous protection policière, à ma connaissance, et puis avec une vie qui a dû quand même beaucoup changer, même s'il a l'air d'avoir... plutôt chouettement rebondi, si j'en crois ces livres que je suis comme des cartes postales avec des nouvelles.
Terror, pour ne pas le citer. Exemple. D'ailleurs, il vient de sortir là, tout de suite.
Ouais. Forcément, c'est un moment en particulier que c'est 10 ans. Surtout dans ce contexte général, pas très enthousiasmant de fortes réactions et de questions quand on voit l'instrumentalisation de la liberté d'expression qui est faite par les uns et les autres du côté des GAFAM notamment, c'est pas très enthousiasmant forcément. Voilà de quoi inciter à s'auto-éditer, à trouver des canaux pour faire des choses et ne pas baisser les bras.
Alors, permets-moi de te souhaiter une très belle et heureuse année 2025.
Merci à toi aussi.
Ça serait bien qu'elle soit multipliée, qu'on n'a même pas besoin d'un mois de janvier pour se le souhaiter. Mais puisqu'on y est, on y va. Et aussi à mes auditeurs, je vous souhaite bonne année. Merci d'avoir participé avec moi aujourd'hui pour ma première émission de 2025 également.
Très honoré.
À très bientôt.
À bientôt.
I have loved in my as a child.
C'était Le Nombril de Vénus, à retrouver sur podcast sur canalb.fr. Allez, bisous, bye.
I love to soon can fade away. Your face changed.